tout de suite sur France Culture, du lundi au jeudi, d'une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, l'heure du documentaire. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue, à la pêche à pied, en escalade, pour les moissons, au bain de soleil, en tricotant, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, cette heure est pour vous. 53 minutes choisies dans 10 années de Sur les docks, un thème et 4 épisodes pour faire vagabonder ses pensées et prendre les chemins de traverse. Cette semaine, vivre avec l'amour. Aujourd'hui, vers un plus grand amour. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Jean-Philippe Navarre. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mais parfois aussi, ils furent malheureux et eurent beaucoup d'enfants. Ou alors, ils furent heureux sans enfants, ou malheureux et sans enfants. Et puis aussi, parfois, ils ne furent pas heureux pour toujours parce que la vie joue des tours. Elle met des cailloux dans nos chaussures, des peaux de banane sur le trottoir et la mort en embuscade pour séparer ceux qui s'aiment. Alors, ils furent heureux, un temps, et puis un jour, ils s'y retrouvaient tout seuls, inconsolables, ou perdus, déterminés à ne rien oublier, à ne rien reconstruire et à ne pas manquer à sa promesse. Alors il a cherché un endroit qui pourrait contenir tout ce chagrin, où il pourrait s'épanouir et en faire autre chose. Une forme de fidélité dans la solitude, une forme de collectif, une confrérie des laissés pour compte. Alors, premier volet, on entre au couvent des veufs.
Bienvenue.
Merci.
Là, vous n'allez pas entendre grand-chose, ils sont en adoration. Hein. Bon.
Vers un plus grand amour, le monastère des veufs.
Silence complet.
Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Jean-Philippe Navarre.
Nous te prions pour nos familles, enfants, petits-enfants. Souviens-toi, Seigneur, de nos épouses et de tous les membres de nos familles que tu as rappelés auprès de toi. Dans ta miséricorde, accueille-les dans ton paradis.
Exauce-nous, Seigneur.
Loué soit Jésus-Christ.
À jamais.
Bienvenue dans notre fraternité, petite, fragile, mais espérante. Voilà, alors nous sommes aujourd'hui 7, nous devrions être 9, mais nous avons un frère qui est souffrant, et puis un autre frère qui devrait arriver ce soir très tard, ou demain dans la matinée. Voilà, ce sont deux frères postulants en plus.
Oui, on a nettoyé l'encensoir.
Bon, on a essayé.
On a essayé, oui.
Enfin, ça allait en Corse.
On va aller au lieu marial, justement, à la chapelle, où il va y avoir les cérémonies là, pendant la semaine sainte. Et comme, vous voyez ici, le prêtre, qui n'a pas de femme de ménage, enfin, de très peu. Et donc, c'est nous, les frères, qui allons faire. Puis ça nous occupe, vous voyez, ça nous occupe. Là, c'est là, on est en haut d'une colline, voyez, on domine. Belle Puck, la belle colline en Occitan. Pour passer sa retraite, est en retraite. Moi, je trouve que c'est. On y respire bien.
Tout à l'heure, quand tu disais la première fois que tu es arrivé, tu n'as pas eu le coup de cœur. Moi, la première fois que je suis arrivé ici, moi aussi, je suis tombé amoureux du lieu.
Donc, face à nous, nous avons deux églises, là, une plus récente et la chapelle du 15e. Où il y a la Vierge, disons, du 15e. Sinon, le pèlerinage date du 10e siècle. Bon. Oui, ben, on va rentrer dans cette église parce qu'on va porter les affaires.
Bonsoir.
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 Voilà, vous avez pu faire ce que vous vouliez.
Là, on vient de vous remettre la
d'accord.
La nappe, toute propre.
Ah, déjà.
Ah, bah oui.
Bah, oh, mais ça s'explique.
Vous croyez qu'on.
Oh, oui, moi, je venais voir. Mais c'est bien. Je vois que vous avez fait
la coupe passe aspirateur.
Ah, bah là, oui. Là, là,
tout est aspiré.
Bon,
tout
les tapis.
Ici, le grand nettoyage. Voilà.
Peur des mots. Donc, vous voyez, elle est une vierge, donc une Pietà du 15e siècle, qui a été couronnée par le Pie IX, je crois, enfin par une couronne offerte par Pie IX. C'est Notre-Dame de Pitié, donc on peut lui demander des désespérés, des. Moi, je la prie par exemple pour les mamans, les veuves, vous voyez, parce qu'elle était veuve, la vierge, elle a perdu Saint-Joseph, après elle a perdu un fils, donc. Elle a souffert, donc on peut la souffrir. Elle connaît notre misère, vous voyez. Elle est passée par là.
Bonjour. Est-ce qu'on peut faire un petit entretien avec vous?
Oui.
Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement?
Votre parcours et puis la raison de votre présence ici, Jean-Louis.
Ça va être facile. J'ai perdu mon épouse en 2002, bien avant qu'elle parte, qu'elle s'en aille vers le Seigneur. Un jour, je lui dis, si tu t'en vas la première, je serai moine. Elle me répond, moine? Bah, tu n'es pas fait pour être moine, ils voudront pas de toi. Malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé, puis elle est partie vers le Seigneur. J'ai eu sur moi quelque chose qui m'a bouleversé, ça a bouleversé sur moi. Dans ces entrefaites-là, j'ai une de mes sœurs, ma sœur aînée, je vais manger un dimanche chez elle. Elle me dit, j'ai quelque chose pour toi. Ah bon? Toi, tu dis toujours que tu veux être moine. Tiens, regarde, il y a des veufs là-bas, à Marcillac. Je regarde. Oh, je dis, mais c'est pas tant, ça. Je dis, c'est très bien pour moi. Aussitôt, le bicophone, je téléphone. Elle dit, bon, on vous attend. Donc, c'était en 2004, ça. J'arrive là-bas. Pff, oh, c'était merde. Oh, je dis, c'est très bien pour moi, ça. Je serais bien là, même, dans cette communauté de veufs. Je réfléchis, je suis reparti. Et l'année d'après, je suis retourné là-bas. Alors, il me dit, alors que vous avez réfléchi? Oh, ben, je réfléchis, toujours, bon, je sais pas ce que je vais faire, j'en sais rien, je sais pas. Je suis regardant tout le moment. Bon, c'est tout. Je dis, qu'est-ce que je fais? J'en sais rien. Ils sont partis à Belpeup, en Corrèze. Bigophone, je suis arrivé là. Alors, j'avais un prêtre qui était mon conseiller spirituel. Je lui en cause. Il me dit, attention Jean-Louis, t'as des enfants, t'as des petits-enfants, t'as une famille, je te vois pas pour être moine. Puis quitter ma maison, j'ai une grosse propriété quand même. Je vis tout seul dans ma propriété. Je suis un ancien exploitant agricole. Mon fils, c'est lui qui a repris la ferme. Alors voilà à quoi j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas.
Il vous faudra vous séparer de tous vos biens, oui.
Oui. Et puis, dans cette maison là, qui est un peu vétuste quand même, hein, me renfermer ici... Mais je reviens tout le temps parce que je suis attiré. J'ai toujours dit, je voudrais être moine.
Et c'est cette promesse que vous avez faite à votre femme qui vous lie ou pas?
Ah bah non, ma femme m'a toujours dit, mais t'es pas fait pour être moine.
Et ça fait 10 ans que vous regardez en fait.
Oui, ça fait 10 ans que je regarde.
Mais c'est notre pièce à vivre. C'est là qu'on, le matin, qu'on prend notre petit déjeuner, après. On fait les pluches ici aussi, tous ensemble. On discute, le frère nous donne un peu des directives. Et puis on mange.
Oui, et puis la maison, enfin le prieuré qui a quand même, il a plus de 120 ans, hein, les pierres et tout ça.
1858.
Oui, enfin bon, c'est énorme. Et donc, on l'a pris en l'état, quoi, hein, c'est la proposition que nous a fait l'évêché lorsqu'on recherchait une maison. Et donc on n'a pas hésité, compte tenu d'abord du site, le site nous a tout de suite séduit, quoi. Un site marial, c'est un lieu qui parle, quoi, qui continuera de parler. Je pense qu'on est, on prie tous les jours pour ça, pour que des frères arrivent, vous voyez, hein, ça arrive tout doucement.
Non, c'est super. Non, c'est le calme. On entend les oiseaux. On est un peu loin de tout, mais c'est bien. Non, la Vierge a bien choisi pour se mettre là. Je revis. Parce que quand je vais retourner chez moi, bon, c'est les soucis. J'ai encore deux fils là, puis bon, une fille aussi. Enfin, j'ai quatre enfants au total qui ne sont pas encore financièrement libres. Donc, c'est un souci. Mais quand je suis ici, je décroche.
Qu'est-ce qui vous a conduit ici, Jean-Marie ?
Je suis né en Normandie, dans un village qui s'appelle Saint-Vendry, où il y a une très grande abbaye. Et mon papa, il a travaillé 47 ans chez eux, chez les moines. Donc j'étais baigné, moi, dans cette affaire. Ma mère m'a mis dans un pensionnat de prêtres. C'était chez les assomptionnistes. Ils allaient voir les familles où il y avait des garçons pour essayer éventuellement d'avoir des prêtres. Tout ça, ça m'a prédestiné. Ensuite, moi, je suis parti encore missionnaire laïque, au Tchad. Et là, j'ai été encore au contact de prêtres. C'est là-bas aussi que je peux dire, j'ai rencontré donc ma future femme. Et puis, on est rentré en France. Et puis, bon, le divorce est arrivé. Et c'est là que le bon Dieu m'a relancé. Le fondateur, il le dit bien, on met au service de Dieu, ce qu'on ne peut plus mettre au service d'une femme, voyez, on est encore plein d'amour, on veut encore donner, parce que l'amour c'est du don, et bien, en se donnant à Dieu, on ne peut plus se donner à une femme, mais on se donne maintenant à Dieu, pleinement, et puis à ses frères aussi.
Là c'est une soupe à l'oignon. Vous épluchez les oignons, vous évitez de pleurer. On les coupe en morceaux, après on les fait revenir dans le beurre, après on met un peu d'eau chaude, et puis après il y a les petits secrets. Non, avec des trucs de cube de volaille et un peu de vin blanc. La deuxième fois, je suis venu avec des recettes, et le père fondateur, lui, il me les a réclamées, hein, le fait que je lui copie, s'il a trouvé ça acceptable. Au moins, je leur ai fait plaisir, c'est ça le principal. Ça aussi, ça fait partie de la prière, alors des fois, on se creuse la tête pour savoir ce qu'on va faire à manger, mais mange bien ici. Mange bien. C'est partie du jeu. Si jeu il y a. Mais je pense pas. Moi, je suis regardé. Alors pour vous situer un peu ma personnalité, je suis veuf depuis 30 ans. J'ai perdu ma femme dans un accident de voiture le 1er janvier 85. Une date. Elle a travaillé, elle sortait de son travail, donc. Disparu, bon, me laissant seul avec deux enfants bas âge, 8 et 6 ans. Bon, après je me suis remarié assez vite. Et bon, malheureusement, au bout de 15 ans, bon, ça s'est arrêté. Et j'ai eu deux enfants supplémentaires, avec donc ma deuxième femme, un garçon, une fille. Voilà. Mais bon, j'ai toujours cherché plus ou moins j'ai toujours prié déjà. Toujours chercher un peu la solitude et puis prier. Et puis j'ai cherché sur internet. Moi je regardais plus les monastères. Bon, et puis je suis tombé sur la fraternité de la résurrection. Je dis c'est un truc qui me convient ça. Et puis bon, je ne me suis pas déplacé tout de suite. Parce que d'abord j'avais un vieux chien. Je voulais pas le laisser tout seul. Et puis, ce monsieur, il est parti un jour pour mourir à 18 ans. Je suis venu là. Puis j'aurais demandé, j'ai dit, frère Pierre-Marie, ce que je veux, c'est apprendre à prier. Il faut des bases, il me faut que. quand on voit le Père André en adoration, sa capuche sur les oreilles, on se dit, enfin, on est vraiment sur des images de, vraiment d'ancien temps. Et puis les psaumes, faut les comprendre. C'est des poèmes, mais qui ont été écrits il y a longtemps. Et puis, après, prier avec eux, je suis rentré chez moi, j'ai eu envie de revenir, donc je suis revenu un peu plus longtemps.
Quand on me dit, ah, vous êtes veuf, je dis oui, stop. Pour l'état civil, oui, je suis veuf. Mais dans mon cœur, dans ma tête, je suis marié avec une femme pour l'éternité. Il n'y a pas une femme avant. Je ne peux pas concevoir qu'il y en ait une après. Voilà. On s'est rencontrés, on était vierges, on ne savait pas comment faire. Non, on s'est bien démerdé, on a eu 5 gosses. Hein. Et puis voilà. Et voilà. C'est simple. C'est très simple. C'est très simple, c'est naturel. C'est le chemin de la lumière. C'est tout. Le chemin de la lumière. Le deuil, c'est jamais fini. Bon, je ne sais pas quel est le type qui a inventé l'expression « faire son deuil ». Moi, faire son deuil, ça veut dire « ah ben ça y est, ça va mieux, on passe à autre chose ». Non, c'est pas ça. C'est pas ça le deuil. Le deuil, il est permanent. Mais il est évolutif. Il se métamorphose. Il est noir, 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 noir. Et puis, il change. Le souvenir prend de la couleur. Et quand on est dans le début du deuil extrêmement noir, anthracite, le souvenir, il écrase complètement. Et avec l'évolution, le souvenir prend un autre visage, une autre forme, une autre lumière, des couleurs. Et le souvenir devient doux. Alors là, on peut dire que le deuil a évolué. Le faire son deuil, n'importe quoi. Autrement, j'ai pris beaucoup de coups de poing dans l'estomac. Bon, il y a encore 15 jours, j'ai un médecin acupuncteur qui est très gentil, j'aime bien. Il me dit, vous êtes un pauvre type moribond, abattu, sans forme, enlisé dans votre tristesse. Alors j'ai regardé en souriant, parce que pour frimer. Puis après, quand il m'a fait allonger sur sa table, qu'il a commencé à me planter les fléchettes d'acupuncteur, là, j'ai pas pu me retenir, les larmes coulaient. Parce que bon, il avait été un peu fort, c'était un peu loin. Une autre fois, il y a une amie, une catholique bon teint, hein, vous voyez ce que je veux dire, l'approche du bénitier est toujours là maintenant. Elle me dit, ça fait combien de temps qu'elle est partie, ta femme? Un peu plus d'un an et demi. Elle me dit, tu sais, ton désespoir, ta tristesse, tout ce que tu traînes là, c'est du nombrilisme. Il est temps de passer à autre chose. Alors on recevait ça dans la caisse, ça résonne.
Hein. Ah oui, on est des blessés d'amour. Moi, j'ai plus mon épouse. Je suis un blessé d'amour. Les séparés, c'est des blessés d'amour. Ici, c'est tout. Je suis entouré de divorcés. Hein. Alors, qui pourraient divorcer, hein. C'est pas ça que je critique. Ils ont leur parcours à eux, c'est tout, hein.
Il y a des veufs aussi.
Des veufs?
Ben, Pierre-Marie, André.
Pierre-Marie, André, oui, c'est un remarié quand même, hein. Oui, c'est un veuf remarié. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas le savoir, hein, j'en sais rien. Je me mets à la place des divorcés, hein, ici. Ça aurait pu m'arriver aussi. Hein. Je leur ai préparé une prière. Je vais vous réciter, je vais leur donner. Je prépare une prière que je vais vous réciter. Marie, nous vous demandons de bénir cette communauté. Gardez-la dans votre cœur immaculé. Faites-en votre vrai foyer, un refuge pour les pauvres en esprit, afin qu'ils y trouvent la source de toute vie. Un refuge pour ceux qui sont éprouvés, tous ces blessés d'amour, afin qu'ils soient infiniment consolés. Ô Marie, donnez-nous des cœurs humbles et doux pour accueillir avec tendresse et compassion tous ceux que vous envoyez dans cette communauté de bel peuple.
C'est le divorce qui vous tombe dessus. Alors là, il y a beaucoup de choses qui passent par la tête. Mais pas refaire ma vie. Non, ça m'est jamais. Donc après, bon, effectivement, bon, j'avais mon travail quand même. Mais enfin, j'avais plus la tête pendant un an. Alors, l'alcool... dans les bras, vous voyez. Mais je dirais, c'est grâce à mon ex, si je ne suis pas tombé dans l'alcool, parce qu'un jour, bon, avant, quand on est en Afrique, on boit. Puis bon, le soir, des fois, on est un peu pompette. Et elle m'avait dit, oh, si toi, t'arrives quelque chose un jour, tu seras un poivreau. Bon, c'est le terme. Et effectivement, quand est arrivé le truc, bon, il y avait des bouteilles d'alcool à la maison. Bon, une, deux, trois, puis il est fini. Puis à un moment, là, pouf! Ça m'est revenu, ce qu'elle m'avait dit. Mais pour lui prouver que non, je ne serai pas un poivreau, j'ai dit, il n'y aura plus d'alcool à la maison. Mine de rien, c'est grâce à sa réflexion, j'ai été tellement vexé que je l'ai mis. Et puis après, bon, je dis, non, c'est le Seigneur. Moi, personnellement, je pense que, mine de rien, quand on y croit, il est là.
Vous n'avez jamais songé à refaire votre vie?
Je dirais non. Non, non, non. Non, non. Je pense que moi, ma femme a été mon premier amour, vrai amour, et ça a été toujours le seul. Même si, bon, il y a eu des petits coups de... enfin, dans le contrat, vous voyez, bon, c'est la vie. Mais j'ai toujours, et j'ai pas honte de l'avoir, j'aime encore ma femme.
Ma première femme, c'était vraiment ma vie. Et puis on s'entendait bien, on était... On faisait vraiment une fusion entre... C'était presque comme si on était qu'une seule personne. Puis on a fait des choses ensemble. Et puis bon... Noël était pas pratiquante, elle. Mais elle me suivait, quoi.
Votre deuxième épouse?
Non, la première.
Et la deuxième, vous avez divorcé?
On a divorcé, oui. Elle a eu marre de la vie commune, donc elle est partie. Après, on a enchaîné des petits problèmes que j'ai eus, quoi. J'avais beau faire le fanfaron en me disant qu'elle m'a rendu service parce que elle m'a rendu ma liberté, mais bon, c'est quand même un échec. Bon, puis il m'est arrivé quelques trucs, quoi. Bon, des problèmes de santé, le chômage. Quand vous manquez d'argent, j'ai pris des affaires chez moi personnelles, de mes alliances que j'ai vendues au poivre en or pour pouvoir manger. Voilà. Bon, par la prière, ça nous donne un peu plus de force. C'est tout.
Et là, à l'heure actuelle, vous vous sentez comment? Dans quel état?
Ah non, mais je suis bien, moi. Je suis bien. Bon, maintenant, c'est l'interrogation de venir pour venir ici. J'ai commencé à préparer mes proches. Mes enfants sont d'accord. Les copains veulent pas que je parte. Mais bon. Mais je les prépare. Et puis, il faut vider la maison, quand même. Faut venir ici net, bah, c'est tout.
frère André, vous êtes un des deux résidents de la fraternité.
Oui.
Dans quelles circonstances vous êtes entré ici?
Nous vivions aux États-Unis pendant 20 ans. Et en 2005, nous avons une des vacances familiales. Mon époux m'a dit, alors on va peut-être profiter de l'occasion pour faire une retraite chez les pères de l'arbitre Solem. Alors je dis que c'est une bonne idée, mais d'où vient cette idée? Dit que moi, quand j'étais un petit peu malade, tu m'as dit que tu ne vas pas rester célibataire ou bien remarié. Alors, on va voir ce que tu peux faire. Après, je dis, mais tu es encore vivante. Non, je sentis qu'il y a quelque chose qui cloche. Et là, mon épouse a posé la question au père directeur de conscience que j'ai choisi. Si je suis mort, où est-ce que vous pouvez placer mon... Peut-être ici. Alors, non, il est trop vieux. Il est au départ soixantaine, alors... Ce n'est pas possible. Mais je vous donne une adresse. Et puis, une année après, mon épouse a eu un cancer du sang. Et elle est morte le 29 novembre 07. Et c'est en 2008, le 2 janvier, je suis entré chez le frère de la résurrection. 4 mois après, et je suis admis comme postulant. 6 mois après, je suis entré au noviciat. Et voilà, depuis 8 ans, presque 8 ans, que je suis là. J'ai fait mes vœux perpétuels en 2012. Perpétuels.
Votre femme a eu une sorte de prémonition, alors, frère André?
Oui. De toute façon, c'est elle qui m'a reconverti, parce qu'avant, j'étais agent diplomatique. J'ai passé une vie affreuse, permissive, toute indépendance, tout ça. J'ai perdu presque la foi. Et là, je suis frappé par la grâce qu'elle, mon Dieu, lui a donnée à elle, et puis elle me repasse. Et c'est comme ça que je suis devenu vraiment chrétien. On a décidé de vivre intensément la vie religieuse jusqu'à sa mort.
Pourquoi est-ce que vous êtes rentré si vite après la mort de votre épouse à la fraternité?
Parce que je me suis dit que si je reste dehors, je lui ai dit que ou bien je suis diable ou bien je suis saint, je ne peux pas être au milieu. Alors si je traîne dehors, parce que j'ai encore des anciennes amies, et puis il y a des tentations permanentes, et je me suis dit que si tu veux continuer à garder la foi, je me suis décidé tout de suite... d'abandonner la vie civile.
Des moines bâtards. Hein, c'est des moines bâtards. C'est pas des moines comme dans les monastères. Il y a la tradition monastique. Donc il y a la liturgie des heures. C'est exactement la même que celle qui est priée dans tous les monastères de France. Il y a l'habit, mais ça on s'en fout. C'est l'habit fait par le moine, c'est bien connu. Puis il y a les vœux. Bon, les 3 vœux. Pauvreté, chasteté, obéissance. Et moi, je considère qu'à un moment ou à un autre de la vie, l'éclairage change. Pendant une période, ça va être l'obéissance qui va être difficile. À une autre période, ça va être la pauvreté. Et à une autre période, ça peut être la chasteté. Parce que en mettant le habit de moine, on ne devient pas unique non plus. Hein. On a des fantasmes. Parce que c'est tellement brûlant en vous, la sexualité, que ça modifie tout votre comportement. Mais on ne parle jamais de rien de tout ça.
Ouais. Vous pensez qu'elle est quand même pour beaucoup dans votre choix de rentrer à la fraternité?
Je dirais oui. Oui. S'il n'y avait pas eu divorce, ben on serait encore ensemble, hein, je pense.
Mais vous êtes sûr de votre choix?
Non, on n'est jamais sûr, il peut arriver des trucs. Mais on met toutes les chances de son côté. Et quand je vais prier cette madone-là,
c'est un peu le but de ma vie, hein. Fais que je ne me sois pas trompé, Marie, fais que, que ça dure, je pense que... Bon, puis je lui dis merci, je suis là, je suis heureux, je suis épanoui, et... mais enfin, fais que ça dure. Parce que le démon, je vais vous dire, hein, plus on se donne d'un côté, plus il attaque. C'est sûr, il y aura des tentations. Mais bon, pour l'instant, je mets toutes mes chances de mon côté. Et je prie pour ça.
Mais si réellement elle vous demandait de revenir, votre ancienne...
Alors là, c'est vrai que pour l'Église, le divorce n'existe pas. Le divorce n'existe pas. Bon, elle n'est pas remariée. Donc, normalement, mais là, je pense qu'il faudrait que je la voie. Puis je lui dis, Nicole, il y a une cassure entre nous, Est-ce que ça peut vraiment repartir? Est-ce qu'il n'y aura pas toujours derrière une petite idée, tu vois? Non, mais je lui dis non, maintenant, j'ai vu mon âge. Bon, on avait choisi notre vie, une nouvelle vie. Ben, faisons notre vie de notre côté. Voilà, c'est tout. Un peu aimé, hein, mais platoniquement, disons. Oui, on peut... on doit continuer d'aimer. Votre mère, vous l'aimez. Il y a des gens qu'on aime toute sa vie. Et puis, bon, mais pour progresser, il faut avoir quand même des gens à qui on se confie. Parce que tout seul, c'est lourd quand même à porter.
C'est un échec pour vous?
Alors, oui, c'est un échec. Ça, je dis bien. C'est un échec, oui. C'est un échec pour moi, mais aussi, moi, ce qui m'a le plus fait mal, c'est que nous étions... un couple très engagé sur la paroisse, très engagé chez les gens. On était vus, on était regardés. Et quand ils ont appris que des chrétiens ont fait ça, ils ont dit, oh, putain, ma voisine, puis ça ferait à l'église. Et c'est ça qui m'a fait mal, c'est le mauvais exemple que j'ai donné. À l'église, avant, j'étais devant, où j'animais. J'étais au fond. Et c'est le curé, il dit, mais Jean-Louis, pourquoi tu restes là? J'ai dit, non, j'ai honte. Non. Je continue de venir. Mon Dieu, mais j'ai honte. Mais pour Dieu, effectivement, la preuve, c'est qu'il m'a peut-être donné une épreuve, mais il m'a donné aussi quelque chose de beau maintenant. Où, vous voyez, si je n'avais pas eu cette épreuve, est-ce que je serais aussi épanoui que maintenant? C'est pour ça que des fois je lui dis, oui, t'as de l'humour, hein, t'es imprévisible, Seigneur. T'es... Moi j'avais prévu ça, puis toi t'avais prévu autre chose. C'est vrai que. C'est les vêpres là, c'est nos vêpres là tout de suite. 6 heures qu'a sonné, bon. Ah oui, j'ai pas vu l'heure. Alors, quand on est maintenant religieux, on vit avec la montre. Bon, la prière, c'est notre rôle. Alors moi je dis que la prière, c'est notre rôle pour ceux qui ne prient pas. Et c'est l'histoire d'un jeune homme chez nous qui vient me voir un jour, et il a une demi-sœur qu'il ne connaissait pas trop, et un jour il reçoit une lettre, il dit, oh Jean-Louis, regarde, j'ai une sœur qui est devenue, ma demi-sœur est devenue carmélite, là-bas en Isère. Ben, je lui dis, mais t'as de la chance. Il dit, pourquoi? Je lui dis, maintenant, regarde la lettre, elle a dit qu'elle allait prier pour toi. Vous voyez, et ben nous ici, moi, c'est mon rôle, je le prends comme ça, on nous donne le temps, dans un magnifique parc, de prier, et ben moi souvent je prie pour mes enfants, beaucoup, pour ma femme, beaucoup, et pour tous ceux qui n'ont pas le temps. Vous voyez, quand c'est accepté comme ça, c'est pas fastidieux. Donc on a eu un regardant qui est venu, et puis il dit, on est obligé encore d'aller prier. Alors, secrètement, j'ai dit, celui-là, oh, oh. Vous voyez, alors lui, c'était, alors voilà, quand on vient ici, il y a deux choses qu'il faut qu'on voit. Est-ce que c'est vraiment vocationnel ou est-ce que c'est pour avoir une communauté, un lieu de vie? C'est sûr que quand il y a eu un veuvage ou un divorce, on cherche une structure. Et il y en a certains, donc il faut voir, est-ce que c'est la structure qui les intéresse ou plutôt la vie communautaire et de prière? Toujours une glace pour être beau pour le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. et que la terre tout entière l'adore. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Il a porté le péché des multitudes, intercédé pour les pécheurs. Par le sang du Christ, nous avons le rachat, le pardon des péchés.
Alors, c'est la vie religieuse qui me pousse pour commencer le vœu de chasteté. Et après, c'est la pauvreté. Vous voyez ce qu'on a quand même. C'est pas tout à fait pauvre, mais pour des vieux retraités comme moi, je crois que je ne peux pas aller plus loin dans la pauvreté physique, dans la pauvreté matérielle. Et de toute façon, ici, on vit, on continue à vivre d'une vie de célibataire, de vie de vieux papa, vieux pépé.
C'est difficile, la pauvreté, parce que c'est la richesse, c'est pas les biens, c'est pas seulement les biens extérieurs. Moi, je pourrais dire orgueilleusement que je suis pauvre. J'ai une bagnole qui a 20 ans, je suis locataire, j'avais deux vélos, on en a piqué un, et le deuxième, les deux roues sont crevées, voilà, j'ai pas grand chose. Bon. Moi, faire vœu de pauvreté, c'est pas séparer ma vieille bagnole et mon vélo, hein. Faire vœu de pauvreté, c'est me dépouiller de tout ce qui est malsain, mauvais en moi, qui fait écran avec vous, avec mes frères. Voilà, c'est ça, la pauvreté. C'est rechercher ce dépouillement dans son être intérieur.
On cherche le vide, mais quand on vient ici, on ne trouve pas le plein, on s'en va. C'est ça la difficulté, parce que pour trouver le plein, il faut suivre le rythme, il faut suivre tout. Et ce n'est pas simple. Il reste, le vide à remplir. Et ce vide-là, c'est la prière, c'est le règlement, c'est l'obéissance quand même. Mais alors, quand on a un supérieur comme notre Femme Merveille, il est très libéral. Parce qu'il comprend bien sa situation. Et notre situation est pareille à la sienne. Là, il comprend. Et dans ce cas, il élargit un petit peu. Et parfois, ça graisse, parce qu'il y en a qui viennent ici. Il y a des gens qui viennent ici. Mais non, c'est pas ça que je veux. Il faut le silence. Il n'y a pas de silence. Alors, ceux qui restent, là, sont des gens qui ont vraiment une idée précise. Pourquoi il reste et comment il continue. Quand on perçoit vite tout d'un coup, on essaie de combler, mais il faut que le vase soit préparé avant de recevoir le plein. Parce que si ce n'est pas préparé, ça entre et ça sort. Le contenu ne tient pas. Il faut que le contenant, que le vase soit préparé avant.
Eh bien, j'ai. À 20 ans, je n'étais rien, j'étais mort. Maintenant, j'ai 70 ans, je vis. Dans mes activités, mes aspirations, j'ai 50 ans de projet devant moi. Entre le moment où j'ai croisé mon épouse et le moment où elle est partie vers d'autres cieux, il s'est passé 45 ans. 45 ans de bonheur, je sais pas, de tout ce qu'on veut. C'était une femme, pour moi, dire que c'était une femme, le mot est réducteur. C'était autre chose de beaucoup plus grand. C'était, je sais pas, une fée, une sirène, une princesse, un ange. Mais attention, c'est un ange sexué, hein. Ça, j'ai bien aimé aussi. Parce que, bon, quand on a goûté une fois, bien envie d'y revenir souvent. Je peux me permettre un peu d'humour, oui. Non, parce que j'en ai besoin, autrement ça ne va pas aller. Partout, il manque quelque chose. Il manque quelque chose sur le deuil du corps, sur l'absence de pouvoir caresser sa peau, de pouvoir la pénétrer. Pourquoi on n'ose pas dire ça? Pourquoi? Mais c'est tuant. Moi, quand je suis tout seul au milieu de mon plumard dans une nuit blanche, j'ai presque envie d'écrire un livre, rien que pour mettre ce chapitre-là. Parce que je le vois nulle part, ce chapitre. On n'est plus dit qu'on gomme, on veut choquer personne. Ben oui, mais la vie à deux, c'est le cœur, l'esprit, l'âme, le corps. Là, vous voyez, je porte une alliance. Là, c'est la mienne, ça. Voilà, c'est la mienne, moi, elle est banale. Il y a ses initiales, les miennes, la date de notre mariage. Et puis ça, c'est le fac-similé de son alliance à elle. Parce que à son décès, j'ai deux filles. Une m'a demandé son alliance et l'autre, sa bague de fiançailles. Et puis alors, à l'intérieur, il n'y a pas nos prénoms et les dates de mariage. À l'intérieur, il y a... Dans tout ça, il y a le résumé de notre vie. D'amour. Complète. Il y a écrit ma jacotte, parce que c'était ma jacotte. Et puis trois mots. Merci. Pardon. Je t'aime. Merci, voilà, pour tout ce qu'elle m'a apporté. On a passé les bons moments quand elle m'a aidé à devenir un homme, parce qu'elle m'a connu. J'étais un adolescent attardé, qui avait été malade et tout. Et puis, elle, c'était une petite fille innocente. Elle m'a aidé à devenir un homme. Je l'ai aidé à devenir une femme, petit à petit, tous les deux. Et c'est pour ça que je dis merci. Et je dis pardon, parce que, évidemment, dans 45 ans de vie commune, il y a des blessures. Il y a des gros couacs. Il y a des vraies merdes. Et c'est pour ça, pardon. Évidemment, pardon. Et puis le troisième mot, ben, je n'ai pas à le commenter, je t'aime. Je t'aime. Pour l'éternité.
J'avais une femme formidable, que je n'ai pas su aimer comme elle aurait voulu que je l'aime. J'estime que j'étais un égoïste. Sexuel. Ah oui, je me demande toujours pardon de ce côté-là.
Vous priez pour elle souvent, vous
pensez? Oh là là! Ma prière. La voilà. Je te salue, Jacqueline, ma chérie, épouse choisie, transfigurée en la Vierge Marie, pleine de grâce, voilà. Et quand je m'endors le soir, c'est pareil. Je te salue, Jacqueline, ma chérie, épouse choisie, de m'avoir aidée durant cette journée, toi qui es transfigurée en la Vierge Marie. Pour moi, c'était la Vierge pour moi. Que j'ai pas su aimer. Oui, voilà. Là, c'est la prière sexe.
Sexe et non.
Oui. Dieu, viens à mon aide.
Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Ô Dieu qui es, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.
Comme le feu calcine
l'arbre mort jusqu'aux racines, quand le péché nous domine, Esprit de Dieu purifie-nous. Comme le fleuve entraîne les torrents jusqu'à la plaine, que ta puissance reprenne nos forces vives dispersées. Comme autrefois ton souffle dans la mer fit une route, quand nous submerge le doute, dans l'impossible ouvre une issue.
La Madone de Belpeuc n'est pas seulement vénérée, on l'aime passionnément.
L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, le nouveau du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Avec la vie que je menais avant, dans la diplomatie, là, c'est permissif. On a des souvenirs, des joies sexuelles qui viennent. Et à ce moment-là, ou bien elle, ou bien nous, mais c'est souvent Dieu. On pense à Dieu et puis ça passe. Et ça revient à chaque prière. Il y a le démon à côté qui souffle des images. Il faut crier au secours et prier tout le temps. La vie religieuse n'est pas simple. Et le fait on dit c'est une sorte d'agonie permanente, agonia, c'est la lutte permanente. Et la lutte pendant la vie permet de ne plus lutter en mourant, comme mon épouse, elle est morte dans mes bras en me regardant. Il n'y a pas de lutte du tout, parce que dans la vie on a déjà mené une lutte permanente. Mais alors là, c'est vraiment une chance pour moi de pouvoir réaliser que la lutte dans la vie permet de survivre et de se dispenser de cette lutte finale.
Vous parlez avec votre épouse, vous êtes en communication avec elle, de quelle manière?
En marchant, quand avant un petit obstacle, elle me dit attention. Je ne tombe jamais et je ne prends pas de bâton. J'ai 85 ans sans bâton et je marche. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, elle me prévient. Attention. Ou bien quand il y a un choix à faire, elle dit attention, il faut choisir de telle manière. Et c'est dur parfois, mais après elle me dit comme elle a raison de me dire ça.
Il y a des moments où vous la perdez, où elle n'est plus avec vous?
Mais oui, bien sûr, ça arrive. C'est comme avec Dieu, avec Jésus aussi.
On va faire un tour à la chapelle, là. Mon lieu de prédilection, c'est ici. Et j'y vais quand je suis seul. Et je chante tout seul. Et puis un jour, je croyais que j'étais tout seul, et je chantais « Je vous salue Marie » sur un air que j'aime bien. Je m'en donnais à cœur joie. Je me retourne, il y avait trois filles debout au fond. Je fais un signe de tête, et puis il y a une des filles qui s'approche, et me dit « Monsieur, vous pourriez recommencer à chanter comme vous avez fait là ?»« Non, non. » Je dis « Par contre, si vous voulez, approchons-nous et mettez-vous autour de moi. Vous pensez pendant quelques minutes à vos intentions les plus chères que vous avez dans le cœur. Et après, je chanterai doucement, mais vous chantez avec moi. Vous verrez, c'est facile. » Et l'on fait. C'était un des plus beaux moments que j'ai eu là, dans cette chapelle. Par contre, l'église, là, ça fait catholique, poussière et tout, coulure de cierge. Ouh là là. Donc la semaine dernière, j'étais en Italie et j'ai passé la moitié des journées dans un Carmel, à Varazze. Et là, j'ai eu un approfondissement intense en moi-même. C'est par rapport à ma vie éventuelle ici. J'ai reçu d'une façon apaisée, alors qu'avant, je voyais pas clair du tout, je savais pas. Pour moi, ici, c'est terminé, je tourne la page. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Maintenant, c'est terminé. Mais là, il y a une rupture d'itinéraire. Là, j'ai perdu la carte, là, la boussole, tout. Mais je sais que ça me sera redonné. Et il faut que j'attende. Comme Dieu avait dit à Abraham, tu vas avoir un fils, 15 ans après, il l'attendait toujours. Seulement, quand je prie, j'ai dit, Seigneur, moi j'ai 70 balais, dépêche-toi quand même. Hein.
Mais vous êtes vraiment fait, vous pensez, pour la vie monastique?
J'attends que quelqu'un veuille bien me faire un discernement. Parce que moi, je suis petit, je suis rien du tout. Hein. Rien du tout. Moi, ici, là, moi, je crève.
Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant alors?
Je sais pas, je suis disponible. Je regarde autour de moi, je cherche. Je sais qu'un jour, il va me faire trouver ma place. J'ai besoin d'être quelque part, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de m'épanouir. Voilà. Dans le spirituel. Parce que la religion...
Oui, justement, comment après donner toute cette dimension spirituelle de l'amour humain partagé, comment lui redonner sa pleine existence. Nos femmes, nos épouses, encore une fois, chantent la gloire de Dieu ailleurs et voilà, nous aident sur ce terrain, sur ce cheminement de foi. Après la blessure d'amour, ben, cet amour, apparemment, enfin, cette brisure, encore une fois, humaine. Quoi. Mais tout ce chemin-là, fait ensemble avec d'autres... Eh bien voilà, ça contribue aussi, certainement ça a contribué au fait que j'ai pu un jour dire, Seigneur, ben vas-y, je te suis, c'est toi qui comptes maintenant, ben, à tout jamais. Voilà.
C'est son écriture, je lis tous les jours, avec un morning offering. Placing this day into the hand of the Lord. Je lis avec elle ça tous les jours. On a enregistré les prières ensemble, les récits, et puis chaque fois que je récite, trois fois par jour, je récite le chapelet avec elle, en français, en vietnamien et en anglais. Ça, c'est en vietnamien. Mais alors, c'est comme ça que nous prions tous les jours, le soir, le matin. Et puis à midi, en me promenant dans la forêt. Et c'est ces instants-là qui sont des instants d'union spirituelle entre l'époux et l'épouse. Et c'est très profond.
Vous en parlez toujours au présent ?
Ah oui. Elle est toujours présente pour moi.
Regardez le ciel bleu, écoutez le chant des oiseaux et ruminez la parole de Dieu. Voilà. Les frères de la résurrection, c'est ça.
Vers un plus grand amour.
Ah oui. Ad majorem amorem. Voilà. Pour un plus grand amour. Les choix qu'on fait.
Avec le frère servant de la Fraternité de la Résurrection de Notre-Dame de Belpeuc, Pierre-Marie.
On est bien au-delà, quoi. Ça ne se mesure plus, quoi. C'est vers un plus grand amour.
Les frères André, Raphaël, Jean-Louis, Michel et le père Bernard Borde. Mixage, Jean-Louis Deloncle. Attaché de production, Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination, Irène Omidanenko. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Jean-Philippe Navarre pour Sur les Docs.
L'heure du documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens et podcasts pour le monastère, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire. Et demain, deuxième épisode, et si on quittait tout pour l'autre ?